Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 9h en temps universel. La pandémie de COVID-19 qui a démarré à la fin 2019 en Chine, avant de se répandre dans le reste du monde, a franchi aujourd'hui la barre du million de morts. Au total, au moins 33 millions de cas ont été officiellement enregistrés sur les 5 continents, entraînant 1 million 9 décès. Un peu plus de 22 millions de personnes sont, elles, considérées comme guéries par les autorités sanitaires. Les régions les plus touchées en nombre de décès sont l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe et les États-Unis et le Canada. Le gouvernement britannique prévoit de mettre en place une interdiction totale des activités sociales dans une grande majorité du nord de la Grande-Bretagne et pourrait faire de même à Londres afin d'empêcher une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a rapporté dimanche soir The Times. Le premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi dernier de nouvelles restrictions sanitaires pour 6 mois et invité les Britanniques à travailler chez eux dans la mesure du possible. Les horaires d'ouverture des bars et restaurants avaient déjà été réduites. Ici aux États-Unis, la bataille pour la confirmation de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême est lancée. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, souhaite que le Sénat se prononce après la présidentielle, même pour le président Trump. La confirmation doit intervenir le plus tôt possible. Michel Joseph.
Lors d'une interview sur Fox News dimanche, Donald Trump s'est dit convaincu que le Sénat américain voterait avant l'élection pour confirmer la nomination de sa candidate, la juge Amy Coney Barrett, à la Cour. « Je pense que ça serait bien de le faire et de passer à autre chose », a ajouté le président. « Les élections ont des conséquences et nous avons gagné l'élection de 2016. Nous avons le Sénat, nous avons la présidence », a indiqué Donald Trump. Son adversaire démocrate Joe Biden a de nouveau réclamé dimanche que le Sénat ne se prononce pas avant l'élection présidentielle du 3 novembre. « Jamais dans l'histoire de notre nation, un juge à la Cour suprême a été désigné et installé alors qu'une élection présidentielle est déjà en cours », a-t-il dit lors d'une brève conférence de presse à Wilmington, sa ville de l'État du Delaware. Sauf surprise, les sénateurs républicains, qui disposent de 53 voix sur 100 à la Chambre haute du Congrès, devraient confirmer le choix à la Cour suprême.
La justice algérienne a condamné dimanche Brahim Lahlami, une figure du mouvement de protestation populaire Irak, à 3 ans de prison ferme. Par ailleurs, Khaled Tazagarden, ex-député et militant anti-régime, a écopé d'un an ferme dans un autre procès, selon la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ibrahim Lahlami comparaissait, lui, devant le tribunal de Borj Bou Arredjid, au sud-est d'Alger, pour 7 affaires au total, a précisé à l'AFP Kassi Tassaoun, le porte-parole de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Le CNLD, Association de soutien aux détenus d'Irak, a qualifié la sentence d'incroyable et inadmissible. L'ancien ministre des Affaires étrangères au Mali, Mokhtar Ouane, âgé de 64 ans, a été désigné hier pour diriger le gouvernement de transition Mali. C'est un diplomate chevronné. Le nouveau premier ministre aura la lourde tâche de conduire le Mali jusqu'à des élections pour rendre le pouvoir aux civils dans 18 mois. La nomination d'un civil à ce poste était attendue depuis l'investiture vendredi comme président de transition de Ba Ndao, un colonel à la retraite et ancien ministre de la Défense. Les pays d'Afrique de l'Ouest en ont fait leur principale condition à la levée des sanctions imposées au Mali à la suite du putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui a terminé dimanche une mission d'une semaine en Côte d'Ivoire, a souhaité que la présidentielle du 31 octobre soit pacifique et inclusive. Mohamed Ibn Chambas insiste sur l'importance d'agir en synergie et en concertation pour surmonter les différends, préserver l'unité et la paix indispensables à la prospérité de la Côte d'Ivoire, selon le texte du communiqué diffusé à la fin de sa mission. Pendant son séjour, M. Chambas a rencontré le président ivoirien, des membres du Conseil constitutionnel et des candidats. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. Soyez des nôtres. Merci pour votre fidélité.